Bien, alors je vais prolonger ce que vous disiez hier, Karine, à propos de la notion d'organisation mathématique. Alors, l'exposé, vous avez rencontré hier cette notion, vous avez vu qu'elle n'était pas si évidente que ça. Et là, on va la complexifier et ça va devenir de moins en moins évident. Donc, je vous préviens, il faut s'accrocher au bureau, aux branches, là, ça va décoiffer. Bon. Alors, ça va d'autant plus décoiffer que je vais utiliser un symbolisme. Alors, vous avez vu hier qu'une organisation mathématique ponctuelle, elle se déclinait sous forme de types de tâches, de techniques, de technologies et de théories. Alors, pour simplifier les choses, si j'ose dire, les complexifier dans un premier temps, on va utiliser, comme je vais avoir à parler de ces quatre éléments, je vais utiliser, c'est le symbolisme qu'on utilise en théorie anthropologique du didactique, donc un type de tâche, je vais le noter avec un T majuscule, une technique, je vais la noter avec Tô, la lettre grecque Tô. La technologie, ce sera petit état, et la théorie, grand état. Donc, un type de tâche, c'est grand T, une technique, c'est Tô, une technologie, c'est petit état, et une théorie, c'est grand état. Alors, donc, on a des quadruplés comme ça. Et puis, alors, oui, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'un type de tâche est constitué de plusieurs tâches, donc les tâches, on les note T minuscule. Voilà. Alors, ce que vous a montré Karine hier, comme je le disais, c'est une organisation mathématique sous forme de type de tâches techniques, technologies, théories, ponctuelles. Pourquoi ponctuelles ? Parce qu'elle se réfère à un seul type de tâche. Et un type de tâche contient évidemment beaucoup de tâches. Mais ces organisations mathématiques vont s'agréger, s'amalgamer pour donner, ponctuelles, vont s'agréger et s'amalgamer pour donner des organisations mathématiques beaucoup plus complexes. Alors, pour exposer cela, j'ai pris l'exemple du théorème de Thalès, bien connu de tous ici, et j'ai regardé ce qu'on appelle la transposition didactique du théorème de Thalès, ou plutôt l'évolution de la transposition didactique du théorème de Thalès dans les programmes de 1963 à nos jours. Et donc, si ce théorème de Thalès y figure toujours dans les programmes, en fait, les organisations mathématiques qu'il engendre sont complètement différentes de par leur nature, même si on retrouve toujours ce théorème de Thalès. Partout, quel que soit. Alors, j'ai zappé la réforme des mathématiques modernes. Bon, je passe pour gagner du temps dans mon exposé, mais j'avais fait le travail là-dessus aussi. Donc, 1963, on est avant la réforme des mathématiques modernes, et puis nos jours, ben, voilà, on est très loin de ce qui s'y est passé à ce moment-là. Alors, comme je vous le disais, le théorème de Thalès, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quelque chose qui va permettre de produire des techniques, de les justifier. C'est le théorème de Thalès qui me permet de dire que les droites sont parallèles si c'est la réciproque, ou d'écrire des rapports égaux, etc., si c'est le théorème direct, bon, etc., etc. Et de les comprendre. Autrement dit, le théorème de Thalès, c'est un élément technologique. Alors, je le note petit état. Donc, cet élément technologique, il peut, si je regarde le programme de troisième actuel, on a la, ou je ne sais plus si c'est l'actuel ou le précédent d'ailleurs, excusez-moi, j'ai la configuration de Thalès et je vois dans la colonne centrale connaître et utiliser la propriété, bon, c'est les compétences exigibles, hein, des trucs comme ça, ou les capacités attendues, connaître et utiliser la proportionnalité des longueurs. Pour les côtés de deux triangles et terminés par deux parallèles coupant de droites sécantes, connaître et utiliser un énoncé réciproque, agrandir ou réduire une figure en utilisant la conservation des angles, etc. C'est la similitude. Bon. Et la proportionnalité. Bien. Donc, je vois bien que, tel que le programme est écrit, ils sont tous écrits un peu de la même manière. Ici, j'ai un élément technologique, la configuration, le théorème de Thalès, ou l'axiome, ça varie, ou la propriété. mais c'est toujours la même chose à peu près. Et ici, des types de tâches que l'on attend que les élèves sachent réaliser. D'accord ? En règle générale, les techniques sont pas mentionnées dans le programme. Elles sont connues des enseignants et c'est pas la peine d'en dire davantage. Donc, si je regarde ce que va engendrer le théorème de Thalès, il va engendrer ce qu'on appelle une organisation mathématique locale. Local, c'est un degré au-dessus de ponctuel. Ponctuel, c'était un seul type de tâche. Local, il y en a plusieurs. On commence à les voir. Alors, ici, j'ai l'élément technologique. Vous voyez que j'utilise un symbolisme, ce qui me permet, comme tout symbolisme, d'arriver à contracter la pensée, l'écriture, etc. Et on gagne du temps. Alors ici, j'ai le théorème de Thalès. Ici, j'ai la génération de trois techniques, TO1, TO2, TO3. T1, c'est la technique qui va être attachée au type de tâche, calculer les longueurs dans les triangles en situation de Thalès. Il va falloir écrire les rapports égaux, tout le monde connaît bien ça. TO2, c'est la technique associée au type de tâche, construire par exemple un segment. J'ai pris ces exemples-là pour vous montrer ce qu'on peut générer avec le théorème de Thalès en règle générale, en troisième. Construire un segment de longueur A sur B fois la longueur d'un segment donné. Donc on partage le segment un certain nombre de fois l'unité de segment, pardon. Et TO3, c'est la technique associée au type de tâche, déterminer par exemple un coefficient d'agrandissement ou de réduction d'air ou de volume. C'est l'histoire K carré, K au cube, vous connaissez bien tout ça. Bon, donc grâce à ce théorème, je peux engendrer et justifier plus ou moins correctement en maths, au niveau où on se trouve là, bien sûr. Je peux même l'admettre, peut-être. Mais enfin, je sais que mathématiquement, le théorème de Thalès, il va engendrer, ici, trois techniques pour trois types de tâches différents, etc. Alors, si je veux résumer l'organisation mathématique ou le bout d'organisation mathématique que j'ai pris ici dans cet exemple, voyez que autour du théorème de Thalès qui est ici, là, j'ai trois types de tâches. Donc j'utilise un indice TI, I variant de 1 à 3, avec TO I qui sont les techniques associées, évidemment, un seul élément technologique, et puis il y a des éléments théoriques qui sont beaucoup plus lointains et qu'on ne va pas mobiliser. Par exemple, c'est la connaissance en acte de la similitude, parce qu'on vit dans un monde rempli de similitudes, bien sûr. Alors, on pourrait trouver des éléments théoriques à l'intérieur des mathématiques, mais ça devient compliqué. Vous savez que la démonstration du théorème de Thalès, on arrive à la faire sur Q, puis après, il va falloir utiliser la densité de Q dans R pour faire le pas. Donc ça, on se garde bien de le faire au niveau de la troisième. Bon. On peut le prendre comme axiome, on peut le prendre dans d'autres types d'organisations mathématiques, ça peut se démontrer. Par exemple, Hilbert démontrait le théorème de Thalès. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler une organisation mathématique locale, d'accord ? Et ça correspond finalement au thème ou au chapitre sur le théorème de Thalès en classe de 3e. Bien, ça va ? Alors, les choses étaient différentes avant. Avant, donc, je suis remonté 50 ans en arrière, à peu près, et donc au programme de 1963. Beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. J'ai eu l'honneur, de le connaître, puisque je l'ai étudié quand j'étais élève. Avant la réforme des mathématiques modernes. Et donc, j'ai regardé un petit peu comment les choses se passaient en me plongeant dans le bouquin que j'ai conservé de l'époque, que j'utilisais quand j'étais élève de 3e. Alors ça donne, vous voyez, pour arriver à faire, à définir des organisations mathématiques, se plonger dans les manuels, dans les programmes, et c'est la ressource à partir de laquelle on travaille. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ouh là là ! Alors là, ça devient extrêmement complexe, vous voyez, ça s'est vraiment complexifié, et c'est tellement complexe que je me suis gardé d'écrire les techniques et les types de tâches. Alors, qu'est-ce qui faisait ce théorème de Thalès, là, en 1963, dans le programme ? Il est là. C'est un élément théorique. C'est-à-dire que ce théorème de Thalès, lui, il va engendrer des sous-théorèmes, en quelque sorte. Donc, c'est un élément théorique qui justifie et qui permet de produire des... Toute cette liste de théorèmes, j'en ai 10, bon, 11 si je compte le prime qui est là, que vous voyez ci-dessous. Alors, j'ai donné la liste. Alors, l'élément théorique, ça va être le théorème de Thalès. Qu'est-ce qui permettait d'engendrer ? Ben, ce qu'on appelait les triangles homothétiques par le sommet. Bon, évidemment, tout le monde sait que... Hein, d'accord ? Oui, mais à cette époque-là, le théorème de Thalès, c'était deux droites sécantes avec des parallèles et le point d'intersection, on ne le voyait pas. Donc, et il y avait plus, évidemment, il y avait plus de deux parallèles. Il y avait beaucoup de parallèles. Et puis, les droites, c'était des axes orientés. Donc, il y avait une mesure algébrique sur les axes, etc. Bon, bref, j'en vois à qui ça rappelle des souvenirs. Bon, c'est bien. Alors, il a engendré ce théorème sur les triangles homothétiques par le sommet. Bon, ben, c'est la configuration de Thalès telle qu'on la connaît, croisé, papillon, là, je ne sais plus comment on l'appelle, bon, ou simple, non, peu importe. Grâce à ça, grâce à ce théorème, on engendrait tout ça. Alors, on engendrait θ2 qui lui-même engendrait beaucoup d'autres théorèmes. Alors, c'était quoi le θ2 ? C'était les triangles semblables ou encore les cas de similitude des triangles qu'on a enseigné dans la précédente réforme au niveau de la seconde, c'est triangle même forme, ça s'appelait comme ça, mais c'est ce qui était derrière. Alors après, avec la similitude des triangles, on engendrait beaucoup de choses, on engendrait ce qu'on appelait les relations métriques dans le triangle rectangle. Alors les voilà. Donc vous avez θ3, AB carré égale BCBH dans un triangle rectangle, θ4, le théorème de Pythagore, bon, θ5. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Bon, je n'ai pas tout cité parce qu'il y a trois relations métriques dans le triangle rectangle, dans le théorème de Pythagore, bon, etc. Bien. Après, on avait les rapports trigonométriques. Alors, au théorème de Pythagore, on le démontrait par la similitude de deux triangles obtenus en traçant la hauteur hein, dans le triangle rectangle. Bon. Après, il y avait les rapports trigonométriques puisque... Il y a eu une époque où ça s'appelait le rapport de projection orthogonale et la symétrie du rapport de projection orthogonale permettait de définir le cosinus d'un angle. Bon, une époque dans un autre programme. Bon, on avait la relation fondamentale de la trigonométrie, on avait ce qu'on appelait la puissance d'un point par rapport à un cercle, bon, que certains ont peut-être étudié à l'université quand ils ont fait de la géométrie, mais ça s'étudie en troisième. On avait le rapport des aires des triangles semblables, l'histoire du cas carré, d'accord, qui apparaissait là. Bon, après on avait ce qu'on appelait les points homologues sur les sécantes, on avait, ah ben oui, on a l'équation de la droite qui passe par l'origine et puis par translation on a y égale x plus b, bon, etc. Et ce y égale à x, évidemment, cette proportionnalité, c'est le théorème de Thalès qui est derrière, comme bien entendu. Bon, donc vous voyez une organisation mathématique extrêmement vaste, compliquée, etc. Si on avait enlevé à ce moment-là le théorème de Thalès, il y avait la géométrie qui s'effondrait, quoi, hein, grosso modo, parce qu'il ne restait pas grand-chose qui n'en dépendait pas. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on va appeler une organisation mathématique régionale. Alors, ça correspond à un secteur, puisque, voire même, c'était la géométrie plane, grosso modo, dans le domaine de la géométrie. Donc, c'est à l'intérieur d'un grand domaine des mathématiques, la géométrie, l'algèbre, la statistique, bon, etc. C'était... Ça organisait cela, c'est ce qu'on appelle donc une organisation mathématique régionale, et vous vous imaginez bien que dans l'écriture avec le symbolisme θ, θ et petit θ et grand θ, il va y avoir un indice supplémentaire qui va apparaître. Alors, je vous en fais grâce pour le moment, ça viendra. Alors, ça viendra tout de suite d'ailleurs, parce que j'avais oublié que j'avais la diapo qui suivait. Voilà. Alors donc, évidemment, ici vous avez le théorème de Thalès qui est là, d'accord ? C'est un élément théorique qui engendre beaucoup d'éléments technologiques. Bon, il faut que je mette un indice supplémentaire, c'est du J, qui, à leur tour, vont engendrer des techniques qui, à leur tour, correspondent à des types de tâches. Donc j'avais mes types de tâches qui s'appelaient TI et TOI, avec les techniques, ben, j'ai rajouté un indice, ça fait ça. Voilà. Donc... ici, c'est un secteur des mathématiques. Et puis, si je monte d'encore un niveau, je vais avoir une organisation mathématique globale. Alors, je vous en fais grâce, parce que j'ai essayé de la décortiquer. C'est les fondements de la géométrie de Hilbert, par exemple. Et donc, là, vous avez si mes souvenirs sont bons, 23 axiomes répartis en 6 groupes d'axiomes. Ils sont là. C'est les éléments théoriques qui sont ici et qui vont engendrer des théorèmes et des techniques, etc. Et donc, bah, que fait Hilbert ? Eh bien, il a besoin du calcul sémantaire pour segmentaire pour construire un corps, enfin de positif uniquement, un demi-corps. Et à partir de là, bah, il démontre le théorème de Thalès à partir du calcul segmentaire et, bon, et de certains groupes d'axiomes qu'il a ici. Et du théorème de Pascal notamment. Bon, voilà. Alors, donc, je ne m'étends pas davantage, mais ben, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a la réunion de toutes les organisations mathématiques globales qui forment ben, les mathématiques, la discipline mathématique en quelque sorte. Et puis, ben, après, ben, c'est terminé pour ce savoir-là mathématique. Alors, si je récapitule l'affaire, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les organisations mathématiques ponctuelles autour d'un seul type de tâche qu'on va appeler un sujet. Exemple, déterminer la longueur du côté d'un triangle dans un triangle rectangle connaissant les deux autres. C'est un type de tâche, d'accord ? Et donc, on a une organisation mathématique ponctuelle. Bon, c'est ce que j'avais pris, longueur d'un côté dans un triangle rectangle connaissant les deux autres. Après, je monte d'un cran. Toujours avec cet exemple, j'ai ce qu'on appelle une organisation mathématique locale, celle qui correspond à un thème ou encore un chapitre dans les manuels, grosso modo. Bon, donc ici, ça serait par exemple le chapitre relatif au théorème de Pythagore. Je monte encore d'un niveau. J'arrive dans un secteur. Alors là, je vais avoir un élément théorique, et beaucoup d'éléments technologiques. C'est par exemple le secteur de la géométrie plane. Et puis, bon, euclidienne, pendant qu'on y est. Et puis, je monte encore d'un cran, et là, j'ai la géométrie, le domaine de la géométrie. Ça, j'ai pris l'exemple au niveau de la quatrième, vous voyez que ça fonctionne à peu près à tous les niveaux. Hein. Bon, j'ai pris le théorème de Thalès en troisième, ici j'ai pris Pythagore, peu importe. Voilà le savoir mathématique, comment il s'organise. Alors ça, c'est évidemment une organisation idéale, disons, parce qu'après, il faut aller mettre les mains dans le cambouis et puis regarder comment les choses se passent réellement avec le programme, avec les manuels, avec les classes, etc., et voir quelles sont les organisations mathématiques qui sont construites. Bien. Alors, revenons maintenant au parcours d'études et de recherche. Alors, vous voyez que c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que ça va être notre guide quand on va concevoir des parcours d'études et de recherche, un guide en quelque sorte qui va nous dire, avec cette question-là, transposée d'une manière adéquate, de manière à ce que les élèves puissent en emparer, etc., qui va aboutir à des sous-questions. Quelles sont les organisations mathématiques que l'on peut construire ? En quelque sorte, c'est notre guide de vigilance épistémologique et mathématique, ce truc-là. D'accord ? Bon, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire évidemment une analyse a priori, c'est-à-dire qu'on va regarder le programme tel qu'il est conçu, essayer de dégager l'organisation mathématique, puis on va faire aussi une analyse a priori de l'organisation mathématique qu'il est possible de construire à partir d'une question génératrice que l'on va lancer. On va faire les deux et on va ajuster évidemment, puisque notre objectif c'est d'enseigner le programme et que le programme, évidemment d'une autre manière, donc peut-être en développant un rapport aux mathématiques et à l'étude des mathématiques différent chez les élèves, puisqu'on change la forme didactique sans changer, évidemment, les contenus mathématiques. Bien, alors, je reviens au PER. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, je viens de parler d'épistémologie, quoi, de garantie épistémologique. Bien, alors, je vais me lancer un petit peu dans l'épistémologie, mais pas beaucoup, avec cette citation-là, qui vient de Gaston Bachelard, grand épistémologue français, qui est une référence au niveau de l'épistémologie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à propos du savoir scientifique ? Ça, c'est la formation de l'esprit scientifique, un de ses ouvrages de 1938. Il nous dit la chose suivante, que, d'abord, dans la production de la science, il faut d'abord savoir des problèmes et que les problèmes ne se posent pas tout seuls. Bien, alors, on transpose, évidemment, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire en sorte que les élèves soient des petits mathématiciens, quoi. On leur fait jouer le rôle du petit mathématicien, bien qu'ils sachent bien que le savoir qu'on leur enseigne, ça fait fort longtemps qu'il a été construit dans le domaine des mathématiques. Mais on joue ce jeu-là à l'école, hein. C'est ça. Bon, alors donc, il va falloir savoir poser des problèmes. Autrement dit, il va falloir trouver une question génératrice avec le milieu des connaissances disponibles chez les élèves, etc., etc. Si c'est, on transpose, hein. Voilà. Quoi qu'on dise dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est vrai, ils ne se posent pas d'eux-mêmes, ce sont des construits. Et c'est pour ça que l'épistémologie bachelardienne, on l'appelait une épistémologie constructiviste. Parce que les choses sont construites et ne sont pas données. Et regardez ce qu'il dit, c'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. C'est-à-dire qu'il faut savoir construire des problèmes. Et donc, moi je dirais, c'est la marque du problème qui donne, c'est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit professionnel enseignant, en maths, tout au moins. Je transpose encore. Bien, pour un esprit scientifique, toute connaissance, c'est répondre à une question. Alors là, c'est crucial. Je crois qu'on vous a rebattu les oreilles depuis le début de ce stage sur ce qu'on fait, c'est poser des questions, et le savoir, c'est la réponse ou les réponses aux questions. Et donc, on retombe sur nos pieds épistémologiques, là, ça vient de bachelor, etc. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de connaissances. C'est ce qu'on a dit encore à plusieurs reprises, à savoir, bon, ben, quand on fait un cours magistral, etc., ben oui, les questions sont souvent escamotées, on enseigne les réponses. Le bon élève, lui, va retrouver des questions en travaillant le savoir, en faisant des problèmes, des exercices, etc. Il va le faire pour lui-même. Nous, qui essayons de promouvoir un enseignement démocratique, on essaye de faire en sorte que les questions, elles soient portées par la collectivité classe, de manière à ce que tout le monde ait une chance de les rencontrer. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de connaissances, rien ne va de soi, rien n'est donné, tout est construit. Bon, voilà. Bien. Alors, je fais un petit détour, là, puisque on parlait hier de théorie anthropologique, pourquoi anthropologique, etc. Bon, parce que, alors j'avais expliqué qu'il y avait des types de tâches, des techniques, des technologies un peu partout, quelle que soit l'activité humaine. Et ce qu'a fait Yves Chevallard, bon, c'est reprendre un petit peu cet esprit bachelardien, et il a généralisé. C'est-à-dire que ce que Bachelard disait pour la production scientifique, ben, lui, il l'a généralisé à toutes les productions humaines, ce qu'il appelle les œuvres. Bon. Autrement dit, ben, si on prend des exemples, la monnaie, par exemple. La monnaie, l'euro, enfin bon, ça existait bien avant. C'est une œuvre humaine. À quelle question ça répond? On s'en sert. Ça a une fonction. S'il n'y avait pas la monnaie, comment se passeraient les échanges? Donc pourquoi a-t-on créé la monnaie? Il y a une question à l'origine de ça. La géométrie, à quelle question ça répond? La statistique, quelles sont les questions auxquelles répond la statistique? L'algèbre, bon, là je suis dans les mathématiques, mais ce phénomène que l'on perçoit en maths, c'est pour ça, de mon point de vue, que c'est quand même assez intéressant de se pencher sur les mathématiques compte tenu de la puissance épistémologique et anthropologique qu'il y a derrière les mathématiques, et on ne le retrouve pas forcément de manière aussi explicite dans d'autres disciplines. On a ce phénomène-là, à savoir, on a des questions à l'origine. Si vous prenez l'œuvre du Gustave Flaubert, par exemple, qui a été étudiée par Bourdieu dans ses dernières années au Collège de France, à quelles questions répond l'œuvre de Flaubert, de Balzac, de, bon, si je prends les écrivains de Zola du XIXe siècle, etc. Et vous savez que, ben, on les range dans certains courants littéraires, etc. Alors, ce courant littéraire-là, par exemple, qui s'appelait le naturalisme pour Émile Zola, à quelles questions il voulait répondre? Donc, on voit bien qu'une œuvre, y compris l'œuvre littéraire, est engendrée, en quelque sorte, après ça se décline différemment, par des questions auxquelles elle apporte des éléments de réponse. Et ça, on l'a un peu partout. D'accord? Voilà. Et on l'a même dans des choses qu'on considère comme vulgaires, par exemple le rap, le rock'n'roll, le skate, ou je ne sais trop quoi. À quelle question ça répond? c'est peut-être pas des questions fondamentales à partir desquelles la société va se développer, mais il y a des questions à l'origine de ça. Bon, alors, on va retrouver, si mon pointeur veut bien marcher, ça y est, ça marche plus, voilà, conséquences pour un enseignement qui prend du sens. Bon, alors on va retrouver le graphique que je vous avais montré, et maintenant il commence à s'éclairer un petit peu plus, puisque je l'indexe sur les types d'organisations mathématiques que l'on vient de rencontrer. Donc on a les sujets, c'est les organisations mathématiques ponctuelles, les thèmes, c'est les organisations mathématiques locales, les secteurs, c'est les organisations mathématiques régionales, et les domaines, c'est les organisations mathématiques globales. Donc sujet, un type de tâche, thème, un chapitre, secteur, secteur, géométrie plane, statistiques descriptives, je sais pas, bon, je prends des exemples, et domaine, la géométrie, la statistique, l'algèbre, etc., etc. Et on a ces organisations mathématiques-là, qui correspondent à ce schéma que je vous avais montré le premier jour. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors là, on retrouve mes trucs, ce qu'on essaye de ne pas faire. D'accord? Donc c'est exactement la même diapo que l'autre jour. Hein, bon, comme quoi, on recycle, parce que bon, quand même, c'est dur de créer tout le temps. Et donc, qu'est-ce que fait le professeur qui, en règle générale, connaît les mathématiques? Donc, ben, lui, il sait bien la géométrie, il sait bien l'algèbre, il sait bien toutes sortes de choses comme ça, l'arithmétique, la théorie des nombres, enfin bon, tout ce qu'on voudra. Ben, il va découper. Et c'est ce qu'on a dans... Alors, c'est ce qu'on a dans les manuels le plus souvent, d'accord? Alors, c'est un phénomène qui vient de Descartes, ce truc-là. Bon, et qui vient de Comenius, à peu près la même époque, c'est-à-dire qu'on va linéariser en le découpant le savoir de manière à pouvoir l'enseigner. Et ça a donné, après, ben, le professeur, il doit faire un cours clair et bien structuré. Voilà, clair et bien structuré, cette phrase-là, j'ai entendu à plusieurs reprises, bien sûr, certes, mais en allant du simple au complexe. Ça, c'est typiquement cartésien, d'accord ? Et donc, on va partir de quoi ? Ben, du simple. Et le simple, c'est les sujets, c'est un seul type de tâche. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, les élèves doivent remonter, et bon, et les bons, ils le font, et ils comprennent le sens, etc., global de l'enseignement des mathématiques, ou régional, disons, et puis les autres, ils font pas ça. C'est pour ça qu'on est dans ce type d'enseignement qu'on promeut et qu'on veut être démocratique. C'est-à-dire, on veut prendre en charge quoi ? Eh bien, la possibilité de dévoluer aux élèves la réponse à des questions d'assez grande ampleur. C'est-à-dire des questions où on va essayer, alors qu'on peut, parce que tout ne s'y prête pas, on l'a vu, hein, il y a des fois, selon les programmes, selon ce qui reste, selon le fait qu'on n'est pas des surhommes ou des surfemmes, et on n'est pas capable de trouver des questions qui correspondent à des morceaux d'organisation mathématique. Bon, voilà. On les connaît, mais on n'est pas capable de les faire vivre dans la classe. Bon, parce qu'il faut les transposer, etc. Donc, on va essayer de poser des questions dans des niveaux, bon, qu'on appelle les niveaux de codétermination didactique, donc dans des niveaux le plus élevé possible, en quelque sorte, de manière à générer ensuite, par l'intermédiaire de ces sous-questions, beaucoup de savoir et donc beaucoup des organisations mathématiques de grande ampleur, en quelque sorte. Hein. Soit des organisations mathématiques locales, voire régionales, ça serait l'idéal, etc. Alors, ça suppose qu'au préalable, on ait mené une enquête, le professeur, bien sûr, enfin, le groupe, parce que le professeur seul, on vous l'a dit, il a beaucoup trop de tâches à faire pour faire cette étude-là. Donc, il faut des collectifs. Avec des collectifs, on se partage un petit peu les tâches, chacun ramène quelque chose, on va creuser, et puis, voilà. Donc, ça suppose qu'on mène une enquête sur les raisons d'être, autrement dit, les questions qui génèrent ces parties du savoir mathématique au niveau épistémologique. Alors, par exemple, on va se demander, c'est quoi l'algèbre ? À quelle question ça répond l'algèbre ? Alors, bon, on n'enseigne pas les structures, c'est fini, au niveau du second degré. Mais l'algèbre, le calcul littéral, quoi, les polynômes et les fractions rationnelles, pour parler rapidement. D'accord ? À quoi ça correspond comme question ? historiquement, il y a sans doute une question. Si on a abandonné la manière dont on procédait dans les éléments d'Euclide pour faire Al-Khwarizmi, les successeurs d'Euclide, etc., pour résoudre des équations, par exemple, je pense à Al-Khwarizmi, sans doute, si on a abandonné ces méthodes-là, qui étaient des méthodes purement géométriques, si vous regardez les éléments d'Euclide, il y a des raisons. Quelles sont-elles? Et est-ce que je pourrais transposer au moins une de ces raisons dans les classes, de manière à ce que les élèves puissent s'en emparer à partir de leurs connaissances? Ça, ça va être la question génératrice. Ce que je dis pour l'algèbre, je peux le répéter pour la géométrie, pour la statistique, pour l'analyse, tout ce que l'on voudra. Bien. Voilà. Et évidemment, une fois qu'on a trouvé ça, une question génératrice que l'on peut transposer, il va falloir faire une analyse a priori. De 1, si je prends cette question-là, quelles sont les sous-questions auxquelles la démarche d'enquête va amener les élèves, et quels sont les éléments de réponse? Autrement dit, quels sont les savoirs mathématiques? Bien sûr, comment ils vont s'agréger? Et puis, il faut que je fasse une analyse didactique aussi. C'est-à-dire, je vais poser cette question. Ouais, mais est-ce que le milieu des connaissances des élèves ou les médias, j'en parlerai demain, c'est-à-dire que je peux mettre à disposition des élèves, ils leur permettent, milieu et médias, d'avoir des ressources qui leur permettent d'attaquer la question? Ça, c'est au niveau didactique qu'on se place. Qu'est-ce qui va se passer? Par quel moment, alors tout à l'heure Farida et Karine vont vous parler des organisations didactiques, par quel moment il y a des chances que les élèves passent? Tout ça, c'est a priori, on n'a encore rien fait dans les classes. Donc c'est à l'extérieur et on bâtit la chose comme ça. Après, mathématiques, quelles sont les organisations mathématiques qu'il y a des chances de produire? Est-ce que ça va déborder du programme? Si je déborde, peut-être qu'il va falloir que je mette en veilleuse certaines questions. On les reprendra plus tard, l'année prochaine, ou je sais pas, ou jamais. D'accord? Bon, voyez comment les choses se bâtissent. Alors, le premier travail à faire, une fois qu'on a fait cette enquête de nature épistémologique et qu'on a essayé de trouver une question qui pourra dévoluer aux élèves avec les connaissances dont ils disposent, etc., tout ce que je viens de dire. Bon, on regarde quand même le programme. Et dans le programme, ben oui, alors justement, on a fait l'enquête, pourquoi? Parce que dans le programme, rarement, on trouve la question génératrice. Dans les documents d'accompagnement, parfois oui. Mais dans le programme, parfois, souvent non. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Par exemple, j'ai pris un exemple sur les nombres relatifs en cinquième, le programme actuel, on change après la géométrie, les nombres relatifs, qui sont dans la partie, calcul numérique, non, c'est ça? Je ne me rappelle plus, ça change régulièrement. Dans le secteur nombre et calcul. Voilà. Dans le secteur nombre et calcul. Et regardez, je vois clairement, c'est un petit peu l'exercice qu'on a demandé hier au groupe second degré, au groupe au pluriel second degré, c'était de repérer les types de tâches, d'accord? Alors, TI, il y en a plusieurs, utiliser la notion d'opposé. Attendez, il y en a beaucoup de types de tâches où je vais utiliser la notion d'opposé. Bon, par exemple, faire une soustraction, de relatif. Par exemple, placer des points symétriques par rapport à l'origine sur une droite graduée, etc. Bon, donc j'ai mis un i. Alors le 1, je ne sais plus où je l'ai foutu, il a disparu. Là c'est des extraits, je m'étais amusé à repérer les types de tâches dans le programme relatif à ce secteur ou ce thème. T3, ranger des nombres relatifs courants en écriture décimale. Ici j'ai mis en vert quelque chose qui peut me faire un déclic. La notion de nombre relatif est introduite à partir d'un problème qui en montre la nécessité. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Il va donc falloir trouver une situation où, si on n'a pas la notion de relatif, par exemple, pour rendre la soustraction toujours possible, on est coincé. Bon, donc ici, il y a une indication. T4, une relation est faite avec la possibilité de graduer entièrement la droite, etc. Bon, je continue pas, vous voyez, on peut continuer comme ça. Mais chaque fois, il n'y a pas les techniques qui apparaissent. Il n'y a pas les éléments technologiques. Bon, je suis allé un petit peu plus loin, je suis allé jusqu'en quatrième. Et là, j'en suis à T13, vous voyez, type de tâche 13. L'addition de deux nombres relatifs en écriture fractionnaire demande un travail sur la recherche des multiples communs. Bon, alors il y a encore un type de tâche, la recherche des multiples communs. Bon, c'est pas le PPCM, mais c'est un truc qui est pas bien loin, bon, etc. Bon, voilà. Alors, donc, ici, je suis un peu démuni et je peux, si je reprends mon exemple des nombres relatifs, je peux me poser la question à quoi ça correspond, quoi, les nombres relatifs. Alors bon, on a vu que ça traînait. Il y a des activités dans les manuels qui, alors je sais pas, les températures, les ascenseurs, les niveaux sous la mer, sur la, au-dessus, bon, il y a des machins comme ça. Bon, après il faut que je fasse une petite enquête et voir où ça va me mener cette affaire. Alors par exemple, si je prends ce que je viens de dire, ben c'est pas des grandeurs mesurables, c'est des grandeurs repérables. Par conséquent, je peux pas les composer, sauf en ce qui concerne leurs variations. Donc c'est difficile, je vais pas pouvoir faire d'opération. Alors là, ben voilà, donc je suis obligé de faire une petite étude de nature mathématico-épistémologico-didactique. Je serais coincé. Bon, donc, allez, je vais mettre de côté tout ce qui traîne dans les manuels relatifs aux grandeurs repérables. Peut-être que je le récupérerai tout à l'heure, quand j'aurai bien avancé sur les nombres relatifs, qui sont mesurables, et pas repérables seulement. Bon, après, ben, je continue ma petite enquête. Et puis, ben, je regarde un peu l'histoire, et je vois que ces nombres relatifs... Bon, il n'y a guère qu'en France qui s'appelle relatif, et puis si je regardais un petit peu à ce comment il s'appelait avant, il s'appelait nombre algébrique. Tiens, les nombres relatifs, c'est donc du domaine de l'algèbre, si c'est algébrique. Quel rapport y a-t-il entre les nombres relatifs et l'algèbre? Ah, voilà, quelque chose d'intéressant. Alors si j'ai fait un petit peu de mathématiques, je sais que Z+, est un corps commutatif, et que je suis dans les structures, et puis je peux monter comme ça, etc. Oui, mais est-ce que je peux raccrocher ça, non pas aux structures, mais... aux raisons d'être de l'algèbre telle qu'elle apparaît avec Viète, etc., et les algébristes allemands de la Renaissance et italiens, de manière à pouvoir transposer ça au niveau des élèves, des connaissances des élèves. Bon, alors, y a-t-il un rapport entre les nombres relatifs et l'algèbre, qui ne s'appelle plus algèbre, mais c'est la même chose, dans le programme, sur ce qu'on appelle écriture littérale, hein, grosso modo, bon, voilà, on est dans ce domaine-là, dans ce champ, dans ce secteur. Si j'arrive à faire des ponts, peut-être que j'aurai une unité. Si j'ai une unité, je vais peut-être avoir une organisation mathématique régionale qui va apparaître, que je pourrais récupérer pour enseigner l'algèbre ou les écritures littérales aussi. Je peux peut-être faire des liens entre les nombres relatifs et les écritures littérales. Vous voyez l'analyse. Voilà. Alors... qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je viens de le dire, il faut donc mener une enquête de nature épistémologique. Là, on n'est pas encore entré dans la classe. Hein. Bon, alors vous allez voir, quand même, Karine et Farida vont vous montrer ce qui se passe dans les classes. Bon, parce que, voilà. Hein. Bon, et voilà tout l'effort qu'il faut faire. C'est pour ça qu'un collectif est absolument nécessaire, sinon, on se tue à la tâche. Donc, mener une enquête de nature épistémologique, je le dis et je le répète, c'est se poser la question des questions, c'est savoir, à savoir à quelles questions répond tel ou tel savoir mathématique dans les maths, et c'est de l'épistémologie. 2. Peut-on didactiquement transposer au moins une des questions à l'origine du savoir enseigné? Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Autrement dit, les connaissances dont disposent les élèves à un moment donné du cursus, où je vais enseigner, devoir enseigner cette notion, est-ce qu'elles permettent de s'emparer ou pas de la question pour un nombre significatif d'élèves, sachant que vous en aurez toujours quelques-uns qui passeront à côté. Bon, mais ça, le monde est ainsi fait. Hein, il faut pas... on vise les 100%, mais on est réaliste, on sait qu'on n'aura jamais 100% de réussite, sauf peut-être au lycée Carnot de Dijon. Bon, bien connu de certains d'entre nous. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ensuite, vers quelle sous-question la recherche va-t-elle amener les élèves? Autrement dit, quelle est l'ampleur de l'organisation mathématique qui sera engendrée? Et puis, quel rapport avec le programme? Bon, puisqu'on a dit qu'on se calait toujours dans le moule du programme. On ne va pas en sortir. Quelles réponses ont-elles des chances d'être produites? Ah, alors là, d'accord. Les réponses, c'est l'organisation mathématique qui va être construite par le collectif classe. Quelle, quelle chance. Donc on est dans le domaine des probabilités là, hein, d'accord, parce que rien n'est jamais sûr dans le monde des relations humaines, comme chacun sait. Bon, ensuite comment faire? Ben comment faire, toujours, là j'ai parlé de l'organisation mathématique, maintenant je vais parler de l'organisation didactique. Comment faire pour que la question mobilise les connaissances antérieures des élèves, et si ce n'est pas le cas? Puisque c'était Karine ou Farida, je ne me rappelle plus, qui nous a montré qu'il y a une espèce de croyance où tout devrait sortir de la tête des élèves, vous savez. Alors, ça, c'est une tare qui vient d'une certaine idéologie purement constructiviste qui a été développée dans les, disons, à partir de la libération du plan Langevin-Wallon et puis Piaget et compagnie. Bon, oui, c'est très intéressant, mais tout ne sort pas de la tête des élèves. Voilà, c'est, les choses sont ainsi faites. Si je me pose un problème de maths que je ne sais pas résoudre, je vais aller rechercher dans des bouquins de mathématiques. D'accord ? Donc je vais consulter des médias, ou Wikipédia, ou Internet, disons maintenant, mais en règle générale, je vais me renseigner dans les médias et je rapporte des réponses, et puis j'essaye de voir si je peux les ajuster pour construire la réponse à mon problème mathématique que je ne savais pas résoudre. Les choses sont, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la société. Donc, si les élèves n'ont pas les connaissances disponibles pour attaquer le problème, est-ce que je peux mettre à leur disposition certains médias, et puis ils vont aller gratter, chercher, et puis ils vont ramener des éléments qui leur permettront d'attaquer la question. Autrement dit, quel est le milieu de connaissances disponible chez les élèves et quels médias éventuels mettre à leur disposition? Alors, ce qui est assez important ensuite, si on veut que les mathématiques, faire jouer les élèves aux petits mathématiciens, sous la direction du professeur, bien entendu, c'est quel rôle attribuer aux élèves et aux professeurs? Évidemment, bon, Serge en a parlé de la didacticité. On veut essayer de faire en sorte que le rôle soit le plus grand possible pour les élèves, mais nous ne l'aurons pas. Bon, il y a des moments où le professeur va relancer la recherche, il y a des moments où il va apporter des connaissances que les élèves ne possèdent pas pour avancer dans la recherche, si tant est, comme je le disais le premier jour, que les questions aient effectivement surgi de la recherche et de l'étude. Et on n'est pas capable de répondre à toutes les questions. Il y a des médias qui nous aident pour cela, et le professeur en est un. Autrement dit, qui fait quoi? C'est le rôle du professeur et des élèves. Quelles sont les régulations possibles pour le professeur, et quelles sont au contraire celles interdites? Tout à l'heure, Serge parlait de la didactification précoce. Bon, je vais arriver à le dire. Voilà. Donc, il va falloir que le professeur soit engagé dans ce qu'il a nommé la rétention didactique. Pardon, la réticence didactique. Mais là, c'est de la rétention quand même aussi. Alors, donc, la réticence. Donc, il se retient d'enseigner, il laisse les élèves chercher, etc. Bon. Voilà. Alors, donc, quel type d'intervention du professeur dans les moments de recherche, quel bilan locaux il va organiser, etc., etc. Ça y est, là, je ne sais plus sûrement. Voilà, quelles difficultés potentiellement rencontrées par les élèves et quelles possibilités de les transformer en des sous-questions. Ah ben, et puis d'arrêter la recherche à un moment donné, puis on la reprendra un petit peu plus tard, etc. Quel type d'avancée dans la recherche et dans la construction de réponses? Et quel temps consacré à la maîtrise des mathématiques ainsi construites? Parce que c'est bien joli de construire des mathématiques nouvelles, toutes fraîches, toutes pimpantes, etc. Mais après, il va falloir les travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir maîtriser l'organisation mathématique que l'on vient de construire. Donc il va falloir faire des exercices, on n'y échappe pas. C'est comme ça qu'ensuite ça devient des routines qu'on oublie et qu'on retravaille plus tard, etc. Bon, donc ça, c'est quelque chose auquel on n'échappera pas. Quelles conditions en termes de savoir et savoir-faire professionnel? Ah, c'est là que, évidemment, on change en quelque sorte le métier. Une grande partie, pas complètement, mais une grande partie du métier d'enseignant. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir savoir faire? Il va falloir savoir mener des analyses mathématiques et didactiques a priori et a posteriori. C'est là, je vous ai parlé du a priori. Karine et Farida vous parleront du a posteriori qui est stabilisé.
D'accord, donc de belles choses.
Mais des fois, plouf, on se casse la figure dans la classe. Hein. Bon, enfin, on avait prévu que... Alors, comme les profs ont de l'expérience, ils savent rattraper le coup, bien entendu. Mais finalement, ce qu'on avait prévu, ça ne marche pas. Ça foire, ou au contraire, ça marche bien, on est content. Mais il faut arriver à comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, justement. Donc, savoir faire des analyses a posteriori, ça suppose, je le redirai jamais assez, des collectifs qui construisent les ressources, qui les font passer en classe, qui les observent, etc. Bon. Après, on sait, comme je vous le disais, les relations humaines, et donc les relations didactiques, éducatives, d'enseignement, sont pas surdéterminées, elles sont sous-déterminées. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'imprévu qui va se glisser. C'est ce qu'en théorie des situations, on appelle la contingence. Quoi. C'est bon, il s'est passé un truc, il y a un élève, il a demandé à son grand frère comment on fait, et bon, il vous réinjecte ça dans la classe, il y a des redoublants, il y a, bon, etc. Il y a, je sais pas, il y en a un qui a dit quelque chose qui a semblé extrêmement intelligent au reste de la classe, donc il va falloir traiter ce truc-là, même si c'est quelque chose de faux. Enfin bon, vous voyez, vous connaissez tout ça, bon, vous êtes rompu à tout cela. Bien, donc il faut laisser du jeu. Ouais, mais jusqu'où ? C'est-à-dire, on va borner, quoi, le jeu, d'accord ? Ça va bouger, mais dans certaines limites. Sinon, paf, ça dérape. Si je change certaines valeurs des variables didactiques, pouf, ça flanque tout par terre. Bon. Alors, évidemment, quand on laisse de la liberté aux élèves, eux, ils vont vous les changer, les variables didactiques. Donc, jusqu'à quel point ? Il faut donc sous contrôle a priori, d'accord ? Théorique a priori. Il y a des questions, des propositions d'élèves qu'on ne va pas prendre en compte et d'autres, au contraire, sur lesquelles on va s'appuyer parce qu'on sait que là, il y a du potentiel. Voilà. Donc ça, ben, évidemment, ça suppose des professeurs formés pour cela, capables d'analyser des propositions construites à partir des outils théoriques. Autrement dit, là, on rencontre le problème de la diffusion de nos ressources. C'est ce que je disais hier. Avec les collègues de Bordeaux, ben oui, si vous n'avez pas en face de vous des gens qui ont compris l'esprit dans lequel vous avez fabriqué votre ressource, ben ils la prennent, ils la transposent, ils la mettent à leur main, et puis paf, des fois ça ne marche pas. Voilà. Et tenir compte de l'imprévu, c'est ce que je disais. Alors après, ben il faut changer son regard relativement aux mathématiques et à l'enseignement des mathématiques, parce que quand on sort avec un CAPES ou une agrégation, on a l'impression qu'on connaît les maths, mais on connaît jamais assez de mathématiques, ou tout au moins, on les connaît, mais peut-être que l'éclairage que l'on a sur les mathématiques, il faut changer un peu de point de vue, etc. Quand je parlais tout à l'heure de l'algèbre, on sait que, ou de la géométrie, hein, c'est des groupes opérants sur des ensembles, et puis c'est terminé, la géométrie. Oui, mais d'accord, mais c'est pas celle du collège. Donc peut-être qu'il faut, changer son point de vue, et bon, partir de là, voilà. Alors donc, il faut oser déconstruire, interroger ses propres connaissances mathématiques. C'est quoi l'algèbre ? C'est quoi la géométrie ? C'est quoi la statistique ? C'est pas la théorie de la mesure au niveau du collège, les probabilités, hein, d'accord ? Bon, c'est pas ça. Donc, bien. Il faut mener une enquête, questionner le savoir qu'on a enseigné, ben ça, je viens de le dire. Il va falloir savoir varier ses ressources. Bon, alors... C'est ce que disait Farida tout à l'heure, me semble-t-il. Bon, ben, il y a des bonnes idées dans les propositions de manuel, mais elles sont tordues, quoi. Alors, on peut piquer des bonnes idées, et puis après, les retravailler, et puis à partir de là, on voit jusqu'où ça nous mène, etc. Donc, interroger ses ressources et les varier. Analyser les présupposés qui fondent celles qu'on trouve. Alors, bon, j'ai trouvé des choses intéressantes sur le site EduSchool, je crois, sur des stages qui avait été fait sur les manuels. Et il y avait les contraintes auxquelles les auteurs étaient soumis par les éditeurs lorsqu'ils fabriquent des manuels. Et ces contraintes-là, ben, après, elles jouent sur le savoir mathématique et la manière dont le savoir mathématique, vous allez le faire travailler dans les classes. Et donc, bon, moi je me rappelle avoir des collègues qui avaient travaillé, vous savez, le premier fractal, pour ceux qui étaient en lycée dans les années 90, sur les modules. Ben, il avait fabriqué le fractal et la première série qui est sortie avec module. Ben, bon, s'il y a des profs de lycée qui s'en souviennent, bon, ici. Et il y avait un de mes collègues qui avait proposé des modules dans le fractal. Mais comme il y avait des modules qui faisaient plus d'une page, l'éditeur coupait. Bon, vous voyez, il y a des contraintes stupides de cet ordre-là. Hein. C'est trivial, mais bon, voilà. Et on a cela, il va falloir faire de la place pour le dessinateur, de manière à ce qu'il colle son dessin au bon endroit. Enfin bon, il y a ces choses-là qui font que... Oui.
Moi, je vais rajouter même plus, c'est que quand on nous propose des choses qui sont innovatrices, ils n'en veulent pas, ils n'en font pas.
Tout à fait. Alors ça, c'est typique. On a quelques collègues didacticiens des mathématiques qui ont fait un bouquin, je crois qu'il s'appelle Élise, c'est ça, en sixième. Eh bien, il existe en sixième. Et c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas vendu. Bon, et c'est un des meilleurs bouquins de sixième, voilà. Exactement. Et pourquoi ? Ben, parce qu'il n'y a pas de marché. C'est-à-dire, voilà. Là, on rencontre la culture professionnelle, enseignante, etc. Voilà. Et puis, il faut travailler en équipe, mobiliser d'importants moyens, et puis après, diffuser des ressources. Voilà, je m'arrête là. On a cinq petites minutes.